avec vous pour l'ouverture d'antenne de Radio Rabelais avec le MAG, notre magazine mensuel. Dans une première partie, nous apprendrons à préserver notre capital auditif avec Franck Blin, l'infirmier du collège de l'Escarène. Puis dans le cadre du forum des métiers, il sera question du métier de cuisinier. Dans un deuxième temps, nous recevrons aux côtés de Madame Bousséaba, principale du collège, Monsieur Tellier, inspecteur d'académie, qui représentera Monsieur le recteur de l'Académie de Nice. En ce jour d'inauguration de Radio Rabelais, il sera toujours question de l'éducation nationale et des médias. Et pour finir, nous fouillerons l'histoire du 19 mai avec Johanna et nous ouvrirons la boîte à idées de Chloé avec les réponses de Madame Viretti, gestionnaire, et Madame Durpois, CPE, à des courriers de collégiens. Pour préserver votre capital auditif, je vous recommande de bien ouvrir vos oreilles pour écouter la première rubrique du MAG, Allô Franck Bobo.
Monsieur Blin,
qu'écouter de la musique forte peut faire mal aux oreilles ?
Alors, la réponse est oui. Oui, le danger représenté par une exposition au bruit, je vais plus parler de bruit que de musique, mais je vais revenir sur la musique. Le danger représenté par une exposition au bruit dépend de deux facteurs principaux, qui est le niveau sonore, bien entendu, mais également la durée d'exposition. Pour comprendre cela, il faut aussi comprendre comment fonctionne l'oreille, rapidement. L'oreille est décomposée en trois parties. On a l'oreille externe qui assure le transfert des sons vers le tympan. Il y a un pavillon qui sert d'amplificateur aux sons environnants. Il transmet donc les sons de l'extérieur vers le tympan. Et ensuite, le son arrive au tympan. Donc là, on arrive au niveau de l'oreille moyenne. Le tympan est une fine membrane tendue comme un tambour dans la pratique. C'est-à-dire qu'il va réagir aux ondes et il va transmettre les sons reçus. Le tympan va transmettre donc cette vibration à une série de trois petits osselets, une sorte d'engrenage, qui sont le marteau, l'enclume et l'étrier, qui ont pour charge de transmettre cette vibration, cette onde sonore, jusqu'à l'oreille interne. L'oreille interne, elle, qui est remplie de liquide, agit comme un ampli, comme un tuner, c'est-à-dire c'est la partie la plus fragile de l'oreille, et les vibrations qui sont transmises dans le liquide vont faire bouger un certain nombre de cils, qui eux-mêmes vont transmettre les informations de cette vibration au niveau du nerf auditif. Les cellules ciliées qui sont dans cette oreille interne, il y en a plusieurs milliers. Et lorsqu'il y a un volume qui est excessif, un bruit brutal, des sons aigus, une durée d'écoute prolongée, ces cellules peuvent être abîmées, voire détruites. Et malheureusement, au niveau de ces cellules, si elles sont détruites, on ne peut pas les réparer. La destruction est définitive et les dégâts peuvent être multiples. Pour reprendre le souci de la musique forte, évidemment, le niveau sonore de la musique, la durée d'exposition vont impacter et ces vibrations excessives vont mettre en difficulté les cellules ciliées, voire les abîmer, ce qui peut impacter et entraîner des conséquences irréversibles. Cela peut entraîner des pertes auditives, on peut avoir des sifflements provisoires définitifs. Les problématiques auditives sont totalement méconnues. Les gens ne connaissent pas la sensibilité de leurs oreilles et ne savent pas y faire attention. En Europe, une personne sur six souffre de problèmes auditifs. C'est énorme. Et ce chiffre est totalement méconnu. En conclusion, je dirais que oui, la musique trop forte peut détruire en partie le capital auditif des adolescents. Plus particulièrement lors du port d'oreillettes, plus ça je n'ai pas abordé, mais souvent les adolescents mettent des oreillettes intra-auriculaires, c'est-à-dire qu'ils mettent des bouchons dans les oreilles et que le son va naître juste à côté du tympan, qui est d'autant plus dangereux pour le tympan. Mais il n'y a pas que la musique qui peut agresser l'oreille. L'ensemble des bruits qui sont forts, qui sont continus, peuvent être dangereux pour les adolescents.
Est-ce que c'est grave d'écouter de la musique forte avant de dormir ?
Avant de dormir, oui, la réponse est toujours oui. D'abord parce que écouter de la musique forte, c'est dangereux, ça je l'ai déjà dit. Mais il faut savoir que lors de l'endormissement, la perception des cinq sens, nous avons tous cinq sens, la perception des cinq sens se calme et permet de rentrer dans le sommeil. La musique trop forte va au contraire agresser le sens de l'ouïe et en conséquence va altérer la phase d'endormissement. Pour dire ça autrement et que vous compreniez l'idée, il va être difficile à un enfant ou un adolescent qui est surexcité, de s'allonger, de s'endormir instantanément. Si l'ouïe est excitée par des ondes sonores qui sont beaucoup trop fortes, l'enfant, l'adolescent, va avoir du mal au niveau de son endormissement. Il y a aussi malheureusement une possibilité d'accoutumance par rapport à ça, c'est-à-dire que les enfants qui vont écouter de la musique forte avant d'aller se coucher vont prendre l'habitude d'écouter cette musique, donc vont altérer leur sommeil dans le temps. Évidemment, cette musique impactera également le capital auditif. Puis, lors de l'endormissement, la musique trop forte va gêner le sommeil et va impacter l'adolescent dans sa vie de tous les jours.
Est-ce qu'il y a des casques qui protègent bien ?
Pour les casques audio, plus le casque sera de qualité et plus la qualité du son sera bonne et moins il faudra de volume pour avoir une qualité d'écoute. Il est nécessaire de trouver un casque ayant des qualités de restitution aussi bien dans les graves que dans les aigus. Et évidemment, pour les adolescents, un casque qui est transportable, léger. Par contre, j'insiste beaucoup, il faut absolument proscrire les oreillettes intra-auriculaires. Pourquoi ? Parce que le son apparaît né juste à côté du tympan et le tympan va souffrir très rapidement de cette onde sonore qui va être beaucoup trop forte et beaucoup trop près de lui. Pour ceux qui cherchent des casques de qualité, j'ai fait une recherche et il existe sur Internet de nombreux comparateurs de casques audio légers, nomades, des casques de salon et chacun peut y trouver ses besoins. Il est important par contre de bien prendre un casque de qualité pour éviter de devoir monter ce volume et d'agresser l'oreille.
Merci Guillaume. Merci Bastien, merci Monsieur Blin pour toutes ces réponses qui vont, je l'espère, permettre à chaque collégien de gérer tout seul toute musique.
Merci à vous.
Le MAC se poursuit sur Radio Rabelais avec notre rubrique Le Forum des métiers qui s'est intéressé à un jeune stagiaire de 3e en entreprise, Santo accueilli dans un restaurant de Blozasque et interviewé par Mathieu. Mathieu, je te laisse avec notre invité.
Bonjour Lise. Notre invité aujourd'hui dans le Forum des métiers Radio Rabelais, c'est Santo qui a poursuivi en janvier un stage de cuisine au restaurant Le Moulin de l'Oliveraie. Bonjour Santo.
Bonjour.
Peux-tu nous présenter brièvement ce restaurant Le Moulin de l'Oliveraie ?
C'est une auberge du XVIIIe siècle qui possède un moulin à huile. C'est un restaurant semi-gastronomique qui peut accueillir jusqu'à 120 personnes.
Parle-nous de ce que tu as fait dans la cuisine du restaurant.
J'ai fait un peu de tout, par exemple la plonge en lavant les assiettes et les couverts, mais aussi la cuisine et la pâtisserie. Pour la cuisine, j'ai fait cuire des légumes, de la viande, du foie gras et des fruits. J'ai émincelé, ciselé, coupé en mirepoix et en brunoise les légumes.
Tu utilises un vrai langage de chef. Peux-tu préciser ce vocabulaire spécifique de la cuisine à nos auditeurs ?
Émincer, c'est tailler en tranches. Ciseler, c'est couper en cubes de moins d'un centimètre. Couper en brunoise, c'est faire des cubes d'un centimètre de côté. Couper en mirepoix, c'est couper en cubes d'un centimètre et plus.
Quels sont les desserts que tu as réalisés ?
Comme dessert, j'ai réalisé le tiramisu, la crème catalane et le café gourmand.
Qu'as-tu aimé particulièrement pendant cette semaine de stage ?
Ce que j'ai préféré, c'était de regarder le chef faire et tenter de reproduire ensuite.
Quelle a été l'activité la plus déplaisante ?
On peut pas dire que ça m'a déplu, mais c'était la plonge.
Parle-nous de l'équipe en salle et en cuisine.
Il y a 3 apprentis, 2 en cuisine plus une en salle, la patronne en salle et le chef en cuisine.
Quelle est ta préférence entre la cuisine et la pâtisserie ?
Je préfère la cuisine et je pense que je vais aller continuer dans cette voie au lycée Paul Augier. Après, je compte m'orienter si tout va bien vers un CAP pâtisserie. Je voudrais remercier toutes les équipes qui m'ont accueilli à l'Olivret et qui m'ont permis de déterminer mon orientation.
Merci beaucoup Santo pour cette interview et à bientôt pour l'invité du forum.
Il est l'heure d'une première pause musicale dans le MAC de Radio Rabelais avec Coldplay. Ma continue sera durable avec un invité de marque, Monsieur Tellier, inspecteur d'académie, qui représente Monsieur le recteur de l'Académie de Nice, en ce jour d'inauguration de notre radio. Monsieur l'inspecteur d'académie, bonjour.
Bonjour.
Aux côtés de Monsieur Tellier, Madame Bousséaba, principale du collège de l'Escarène. Madame Bousséaba, bonjour.
Bonjour.
Madame Bousséaba, je vous cède le micro pour un rappel bref de l'actualité de notre collège.
Donc l'actualité du collège est vraiment en lien avec la période. On est déjà sur la dernière ligne droite et sur la fin d'année qui est marquée par de nombreuses échéances. Tout d'abord, on a cette fameuse inauguration qui pour nous représente un événement extrêmement important. Puis donc le 31 mai, pour nous, c'est une journée aussi particulière puisque nous allons accueillir 120 élèves de CM2 qui proviennent des 8 écoles du secteur. Toute la journée, ce sera le mardi 31 mai. Donc le rallye va permettre ainsi au collège, aux élèves, de montrer le fonctionnement du collège, les différents types de personnel et les services, mais surtout les exigences au niveau des apprentissages. Nous avons aussi des événements culturels pour cette fin d'année avec le spectacle de la chorale. Notre chorale va s'associer à celle de Breil-sur-Roya et celle de Sospel, où il y a aussi des collèges. Et le premier spectacle aura lieu à l'Escarène le 6 juin. Donc j'espère que vous serez nombreux à venir assister à ce spectacle donné par les élèves de la chorale des trois collèges. Il n'y a pas de fin d'année sans examen, donc nos élèves de 3e subiront, et vous êtes bien passés pour le savoir, leurs épreuves écrites ponctuelles du brevet du collège, les jeudis 23 et vendredi 24 juin 2016. Et puis également, il n'y a pas de fin d'année sans fête de fin d'année, elle est prévue le 30 juin et ce sera ainsi l'occasion de célébrer les élèves méritants. On ne change pas de nom pour cette fête parce que c'est toujours d'actualité, la fête portera le nom, le collège François Rabelais a du talent parce que c'est vrai.
Pour éclairer nos auditeurs, pouvez-vous, monsieur l'inspecteur d'académie, nous préciser quelle est votre fonction ?
Alors, en quelques mots, l'inspecteur d'académie est chargé, sous la direction du recteur et du ministre de l'Éducation nationale, de la mise en œuvre de la politique éducative, nationale et académique, dans un département, donc en l'occurrence ici dans les Alpes-Maritimes. Et sa compétence s'étend depuis la maternelle jusqu'au post-bac, c'est-à-dire 2 ans après le baccalauréat, avec une compétence à la fois sur ce qu'on appelle la carte scolaire, donc les ouvertures ou fermetures de classes, pour faire simple, sur les moyens des établissements du second degré, collège et lycée, mais aussi bien sûr sur la mise en œuvre de la politique, de la pédagogie. Donc ce sont des compétences assez vastes, hein. Elles concernent tout le système scolaire avant l'université ou le supérieur.
Selon vous, quels sont les objectifs poursuivis par l'éducation nationale en encourageant l'éducation aux médias et à l'information dans les établissements scolaires ?
Alors, ce concept d'éducation aux médias et à l'information est né avec la loi d'orientation de 2013 et bien évidemment l'actualité récente, hein, je pense aux attentats de 2015, hein, ceux contre Charlie Hebdo, a renforcé encore cette volonté d'éduquer les jeunes aux médias. En partant d'un constat, c'est que d'abord, l'éducation aux médias, elle part d'un paradoxe, c'est que jamais l'information n'a été aussi abondante et aussi facile d'accès. Pendant très longtemps, le problème, ça a été la recherche, l'accès à l'information. Aujourd'hui, nous vivons la situation absolument inverse. L'information est très simple d'accès, ne serait-ce que par le net, et elle est extrêmement vaste, elle est devenue très compliquée à décrypter. Et l'éducation aux médias et à l'information, ça n'est pas tant d'apprendre à chercher l'information, que l'on trouve facilement, mais d'apprendre à trier l'information, à la hiérarchiser, à avoir un esprit critique envers l'information, à savoir aussi ne pas prendre pour argent comptant toutes les informations qu'on peut trouver dans les médias ou sur Internet. Donc c'est en gros ce qui prépare à l'apprentissage de la citoyenneté. Bien évidemment, c'est aussi l'apprentissage de la liberté d'expression. Et au-delà de ces valeurs citoyennes, il y a évidemment des valeurs qui recoupent celles que l'école promeut. Faire une émission de radio, par exemple, comme la vôtre, bah, ça se prépare. Souvent, on écrit ce que l'on va dire. Donc, il y a à la fois, si on résume, les objectifs en termes d'apprentissage de la citoyenneté, d'apprentissage de la liberté d'expression, et puis aussi d'autres qui recoupent les objectifs plus traditionnels de l'école.
Pourriez-vous nous indiquer les principales actions engagées par l'Académie de Nice pour promouvoir la semaine de la presse et des médias ?
Alors, il y a de nombreuses actions très, très différentes. Hein. Ça peut aller de la promotion de journaux dans les établissements à des expositions ou alors des actions plus spectaculaires, notamment le développement, et vous en êtes un bon exemple, des web radios et de manière encore plus représentative d'une radio académique qui s'appelle Cap Radio.
Lors de la semaine de la presse et des médias, des élèves de notre collège ont participé au lancement de Cap Radio, la radio du rectorat de Nice. Quel premier bilan a-t-on pu dresser au lancement de cette radio ?
Alors un bilan encore très provisoire puisque cette radio est très récente, mais un premier constat, c'est la première radio académique de France puisqu'elle l'émet en continu. Alors je n'ai pas de chiffres précis, mais je sais que son audience est, semble-t-il, en augmentation régulière. Et qu'elle est appelée à durer, à se développer et donc à fonctionner de manière continue, ce qui est un véritable défi, puisqu'on le sait pour tous les nouveaux médias, les premières semaines, les premiers mois, il y a un véritable enthousiasme. Et puis ensuite, ce qui est compliqué, c'est de faire vivre ces nouveaux médias, puisqu'il faut du contenu et il faut que ces contenus soient renouvelés. En tout cas, il y a un démarrage qui est très positif.
Quels sont les moyens dont dispose le rectorat et les inspections académiques pour aider les établissements scolaires qui se sont engagés dans une expérience d'utilisation régulière de l'outil médiatique ?
Alors, il y a au rectorat un service qu'on appelle le CLEMI, donc précisément le travail consiste à aider les établissements, les écoles qui s'engagent dans des projets qui ont rapport avec les médias. Je crois d'ailleurs que le CLEMI a participé au Collège François Rabelais à la naissance, au projet qui a mené à la naissance de votre radio.
Et enfin, pouvez-vous nous faire part de comment vous percevez l'expérience radiophonique dans laquelle nous nous sommes engagés au Collège François Rabelais depuis cette année ?
Alors moi, j'ai été et je suis très impressionné par le projet pour plein de raisons. D'abord, les aspects matériels du projet que je découvre aujourd'hui. Et puis, pour plein de raisons. D'abord, parce que c'est un projet qui est vraiment transversal, qui implique de nombreux enseignants de disciplines différentes. Et ça, c'est vraiment l'interdisciplinarité, c'est vraiment une chose qu'on essaie de promouvoir. Parce que c'est un projet qui est attractif aussi pour les élèves et qui peut remotiver des élèves qui peut-être, pour plein de raisons, se sentent un peu loin des apprentissages scolaires au sens les plus traditionnels du terme. On peut être exigeant, mais présenter aussi les choses autrement. Parce qu'aussi c'est un projet qui est porté par des valeurs citoyennes. Et puis aussi c'est un bon exemple de collaboration, les collectivités, le département, un certain nombre de communes ont soutenu, ont participé à la naissance de ce projet. C'est un bel exemple de ce qu'on peut faire entre administration publique, État, collectivité territoriale, lorsque la collaboration fonctionne bien.
Merci Monsieur l'inspecteur d'Académie de nous avoir honoré votre présence dans nos studios. Merci à vous aussi Madame Bousséava. Une petite pause musicale dans le MAG sur Radio Rabelais avec Birdie. C'est le MAG sur Radio Rabelais. Aujourd'hui, 19 mai 2016, j'en profite pour souhaiter un bon anniversaire à Carla de 5MB. Johanna, dans ton billet, ça s'est passé un 19 mai. Tu vas nous faire remonter le temps de plus de deux siècles.
Oui, Lise. Nous allons voyager dans le temps jusqu'au 19 mai 1802, quand le premier consul, Napoléon Bonaparte, a fait établir un ordre national de la Légion d'honneur pour récompenser les mérites des civils et des militaires. La première distribution de médailles a eu lieu le 14 juillet 1804. Aujourd'hui, le grand maître de la Légion d'honneur est le président de la République. La dernière promotion de la Légion d'honneur, celle de Pâques 2016, a honoré des personnes aussi diverses que le chef d'entreprise Louis Gallois, le comédien Pierre Arditi, l'écrivain Benoît de Groux, le sociologue et philosophe Edgar Morin et la créatrice de mode Agnès B.
Merci Johanna pour cet éclairage sur la Légion d'honneur dont l'acte de naissance date du 19 mai 1802. Écoutons maintenant notre dernière rubrique, la boîte à idées de Chloé, dont le but est de répondre aux interrogations des collégiens de l'Escarène.
Bonjour Lise, nous sommes sur Radio Rabelais en présence de deux invités, Madame Durpois, CPE et Madame Viretti, gestionnaire. Bonjour mesdames, pouvez-vous expliquer aux auditeurs votre métier dans le collège ?
Je dirige le service de la vie scolaire avec les assistants d'éducation. Je veille à l'organisation et au bon déroulement de la vie collective hors du temps de classe, comme par exemple les entrées et les sorties des élèves, les récréations, les interclasses, les pauses déjeuner, les permanences, la salle du foyer des élèves, les mises en place de clubs ou d'activités avec les assistants d'éducation. Je gère les absences et les retards des élèves et je fais respecter le règlement intérieur. J'organise les élections des délégués de classe, je participe au conseil de classe et au conseil d'administration et je travaille avec tous les adultes de l'établissement, entre autres les enseignants, l'infirmier, la conseillère d'orientation psychologue et l'assistante sociale, pour offrir aux élèves les meilleures conditions de réussite.
Le travail d'une gestionnaire est très varié. Pour faire simple, elle s'occupe de l'élaboration et le suivi du budget, recettes et dépenses, de la demi-pension, de la sécurité des locaux, et apporte une aide au conseil juridique du chef d'établissement.
Merci à toutes deux pour ces précisions. Les élèves ont posé des questions et donné des idées pour améliorer le collège dans le cadre du CESC. Madame Durpois, qu'est-ce que le CESC ?
C'est le Comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté. Il conduit les actions d'éducation et de prévention des conduites à risque dans le domaine de la santé et de la citoyenneté. On peut par exemple y trouver l'information et les élections des délégués de classe, les actions de solidarité mises en place avec la Croix-Rouge sur le thème du handicap, les interventions sur le harcèlement, le mieux vivre au collège, la violence, les différentes interventions sur le sommeil, la sexualité, les interventions sur le rappel à la loi, sur Internet, les réseaux sociaux, la sécurité dans les transports.
Quelques questions ont été retenues pour la première de Boîte à idées. Madame Durpois, Madame Viretti, pouvez-vous nous expliquer lesquelles sont possibles ou impossibles et pourquoi ? Madame Viretti, peut-on mettre plus de poubelles et plus de bancs dans la cour de récréation et à l'intérieur ?
Cette mise en place est prévue pour l'année scolaire 2016-2017 pour deux raisons. Tout d'abord, le coût. Le prix d'un banc aux normes de sécurité étant d'environ 600 euros, nous attendons plusieurs devis avant de pouvoir en acheter. De plus, des travaux d'enrobés dans la cour de récréation devant être effectués pendant les vacances d'été, il faudra attendre la rentrée prochaine pour l'achat de bancs et de nouvelles poubelles.
Madame Durpois, a-t-on le droit de boire en permanence, par exemple de l'eau ou des mini-briques de jus de fruits ?
Mais non, car tout simplement les règles du règlement intérieur s'appliquent aussi à la salle de permanence.
Pour finir, Lola de 6e a eu une petite idée. Le matin, lorsqu'on se range, on a froid l'hiver et chaud l'été. Elle propose de construire une salle qui prolongerait le préau pour y avoir chaud l'hiver et y mettre une clim pour y avoir froid l'été.
Seul le département est habilité à intervenir sur les constructions et non pas le collège. Concernant la climatisation, aucun établissement n'est climatisé.
Madame Durpois, Gaëlle propose un club de jardinage pour les enfants du collège pour avoir un peu plus de fleurs dans la cour.
C'est une bonne idée à envisager pour l'an prochain si plusieurs élèves sont intéressés et si l'on peut disposer du budget nécessaire et d'un adulte responsable. Dans le cadre de la journée solidarité du 1er avril, une activité jardinage a eu lieu. Et les jardinières réalisées ont été mises dans la cour demi-pension. Tous les élèves apprécient et respectent cette amélioration de leur cadre de vie et ce sont aussi les élèves qui entretiennent ces fleurs.
Madame Viretti, une idée qui me tient à cœur. Une journée à la japonaise. Ce serait une journée où l'on mange des plats japonais, sushi de préférence. J'adore ça et ça me fait penser au Japon. Les élèves auront le droit de porter au maximum deux accessoires évoquant le Japon.
Concernant le repas, on peut tout à fait établir un menu japonais. Il suffit de voir le chef de cuisine pour élaborer un menu compatible avec la restauration collective.
Beaucoup d'élèves ont demandé d'utiliser le téléphone dans le collège.
Il y a quelques années, le conseil d'administration, qui approuve entre autres le règlement intérieur, s'est déclaré par un vote à l'unanimité contre l'utilisation des téléphones portables au collège. Même les représentants des délégués élèves étaient pour cette mesure. Cela permet de se déconnecter de ce milieu d'échange virtuel et de parler à ses camarades sans connectique interposée. Et d'avoir plus de plaisir pour retrouver son objet fétiche en sortant du collège.
Merci mesdames d'avoir été nos invités pour la première de la boîte à idées. Vous pouvez proposer vos questions sur email pour la prochaine boîte à idées et je vous laisse avec Lise pour la suite du mag.
C'est l'heure de nous quitter sur Radio Rabelais. À bientôt dans un prochain numéro du MAG. It's a terrible love and I'm walking with spiders. It's a terrible love and I'm walking in.
It's a terrible love when I'm walking with spiders. It's a terrible love when I'm walking in its quiet company. It's quiet company. It's a terrible love when I'm walking with spiders. It's a terrible love when I'm walking in. It's a terrible love when I'm walking with spiders. It's a terrible love when I'm walking in. It's quiet company. It's quiet company. It's quiet company.
Shiver.